Nous voici donc en 2025, vous venez de voir deux jeunes se faire baptiser, vous voyez une salle remplie ici qui chante sa foi, et la question se pose, est-ce que la foi est un choix raisonnable de nos jours? Avons-nous des raisons raisonnables de croire la Bible? Vous savez que le rapport entre la foi et la raison a fait beaucoup réfléchir les philosophes. Kant dit... Pourquoi il faut abolir le savoir pour lui substituer la croyance? Comme quoi il faut choisir entre le savoir et la foi. Kierkegaard, qui lui-même a une vision chrétienne, mais il parlait de la foi comme un saut dans l'irrationnel. Ou Pascal, j'ai appris un mot cette semaine en français, abêtisez-vous pour croire. Le contexte est particulier, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est tourné sur les bacs de philo pour les jeunes. Faut-il s'abêtir pour croire? En tout cas, l'idée, c'est qu'il y avait à l'époque la foi, la croyance, la superstition, et maintenant nous sommes passés à la raison, au rationnel. Et la foi et la croyance sont appelées à disparaître dans ce monde moderne. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons autour de nous? Est-ce que le monde devient de plus en plus croyant ou de moins en moins croyant? En fait, ça dépend un peu à qui on demande. Si on demande à un groupe un peu comme nous, les chrétiens, on dit qu'on s'entend parler des fois, déplorer, oh là là, le monde devient beaucoup plus athée, les gens s'éloignent de Dieu, c'est terrible. Mais si vous demandez à des athées européens, souvent, ils constatent le monde, ils disent, oh là là, ils déplorent le fait que le monde devienne de beaucoup plus en plus croyant, il y a une montée de l'intégrisme, des fondamentalismes. Par là, on peut parler de l'islam, mais aussi... la foi évangélique, pour certains. Donc ça dépend un peu à qui on demande. Et les deux sont un peu vrais aussi. Là. En Europe et dans le monde, c'est vrai que les gens s'éloignent de la foi, mais sur le plan global, il y a quand même des choses intrigantes qui se passent par rapport à la foi. Étonnamment, par exemple, la Bible reste encore aujourd'hui le livre le plus lu, le plus traduit, le plus téléchargé, le plus imprimé. Je ne sais pas si vous connaissez l'application YouVersion, c'est une application de lecture biblique très connue. Ils ont battu le record récemment avec 18 millions de consultations dans un jour et 800 000 nouveaux téléchargements. C'était le 5 janvier 2005, donc beaucoup d'églises appellent les gens à démarrer l'année avec la Bible. Et donc un jour, 18 millions de consultations, 800 000 nouveaux téléchargements, et cela dans des endroits étonnants, l'Égypte, l'Éthiopie, un peu partout dans le monde. Donc comment expliquer ces phénomènes où la foi semble encore avoir de beaux jours, même à l'ère de la raison? Alors pour citer un célèbre Hongrois ce matin, Erno Rubik, l'inventeur du Rubik's Cube, lui dit, si vous êtes curieux, vous trouverez les énigmes autour de vous. Si vous êtes déterminé, vous les résoudrez. Jésus a dit un peu pareil, hein, cherchez, vous trouverez. Alors j'espère que ce matin, vous avez au moins la curiosité, comme il nous appelle à avoir, de constater l'énigme que représente la personne de Jésus, son attirance encore aujourd'hui, son impact dans le monde, encore aujourd'hui à l'ère de la raison. Et si je peux ce matin vous encourager à un peu de détermination à résoudre cette énigme, pourquoi les jeunes se font encore baptiser, pourquoi Jésus impacte notre monde, pourquoi il y a une montée de la foi chrétienne non bien dans un endroit. Voyons si on peut résoudre cette énigme ce matin. La beauté du Rubik's Cube, c'est que oui, il y a 43 trillions de combinaisons possibles, mais... quand même, si vous l'avez eu entre vos mains, il y a une simplicité dans la conception. Et, la résolution du puzzle, une fois que vous l'avez, elle vous saute aux yeux. La solution est simple une fois que vous l'avez. Une fois que vous avez trouvé la solution, vous savez que vous avez trouvé la solution parce que toutes les faces sont de la même couleur. Même un enfant peut comprendre ça. Et C'est pareil, je vais essayer de défendre cette idée ce matin, la meilleure explication raisonnable de Jésus, de son impact, de sa parole qui perdure, c'est qu'il est la vérité, il est la solution du puzzle de notre vie, comme les deux baptisés viennent de vous en témoigner. Et cela, je pense qu'on peut arriver à cette conclusion sans tricher. Comme moi, je fais des Rubik's Cube, des fois, c'est pas bien. On peut arriver à cette conclusion sans tricher, sans trahir la raison, sans trahir la logique. C'est ce que je vous propose ce matin. Et nous allons lire un texte. Je prends la suite du texte du pasteur Vincent de la semaine dernière, Jean 5, versets 31 à 47. Vous pouvez suivre avec moi sur l'écran si vous voulez. Jésus dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Vous avez envoyé une délégation vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui, lui, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Et vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez en voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Moi, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous aviez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Jésus prononce ces paroles en face des sceptiques, des gens qui ne voulaient pas croire en lui, et il cherche à leur donner des raisons de croire en lui. Alors ce matin, c'est un peu ce que nous allons voir là, les raisons pour la foi. On va affirmer que la foi a ses raisons, mais aussi, ensuite on va aussi reconnaître que le cœur a ses raisons, que la raison des fois ne connaît pas, ne suit pas. Tout d'abord, la foi a ses raisons. Mes deux points sont des titres des livres que vous pouvez trouver, peut-être plein de vie, mais la foi a ses raisons, le cœur a ses raisons. Parlant de la foi qui a ses raisons, parfois on nous apprend à voir le christianisme comme une foi aveugle, qu'il ne faut pas trop penser pour croire, qu'il faut mettre l'intelligence et la raison au placard pour croire en Dieu. Parfois les chrétiens eux-mêmes ont encouragé cette démarche. Tertullien, c'était au IIe siècle, il avait dit cette phrase en latin, « Credo quia absurdum », je crois parce que c'est absurde. Donc, il manque le contexte, il parlait un peu de la folie de la croix, mais l'idée est restée, la phrase est restée, et beaucoup envisagent la foi comme ça. Plus que c'est absurde, voilà, plus qu'on peut le croire. Ne cherche pas à comprendre, crois simplement, crois bêtement presque. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus a parlé. Vous avez vu dans notre texte, le premier verset, Jésus dit une chose intéressante. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. J'ai entendu un athée déconseiller la foi chrétienne ainsi. Et il n'avait pas tort. Il a dit, par exemple, vous montez dans un bus, vous asseyez, et la personne à côté de vous dit, j'étais mort, 3 jours après je suis ressuscité, grâce à moi, la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Est-ce que vous dites Alléluia ou vous changez de place? Vous changez de place, et vous avez raison, c'est normal. C'est-à-dire une autoproclamation n'est pas une raison suffisante, et Jésus le sait. Et donc il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jésus sait que ses propos sont difficiles à accepter. Il vient d'affirmer qu'il est Dieu. Il vient de guérir un paralytique. Et pour ces gens-là, ça ne colle pas avec la raison. Donc, dans le reste du texte, de notre texte, il aligne des preuves, des raisons, des témoins pour convaincre son auditoire de son identité. Et avant d'aller voir ces preuves, je nous encourage à être fair play, être honnête, quand il s'agit de nos croyances et de nos convictions. Parce que le problème de la foi aveugle touche tout le monde, pas que les chrétiens. Jésus va dire plus tard, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Jésus là déjà signale un double standard. Vous exigez des raisons, des preuves, des témoins quand il s'agit de moi et de mes propos, mais vous suivez facilement d'autres idées. Hein, et encore dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'idées qui circulent. Comme dit Tim Keller, il serait incohérent d'exiger des chrétiens qui justifient davantage leur foi que vous la vôtre. Mais c'est pourtant ce qui arrive fréquemment. Il y a pas mal d'idées circulent, même si je crois qu'il ne peut y avoir une seule vérité. Donc je rejette la foi chrétienne, mais est-ce que vous avez ça? Vous l'avez prouvé qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a pas une seule vérité? Vous l'avez prouvé de manière cartésienne? Vous l'avez prouvé A plus B? Vous avez des raisons? Non, souvent c'est juste dans l'air du temps et on le dit, comme ces juifs, pour eux c'était impossible qu'un homme soit Dieu. Mais ils ne l'ont pas prouvé avec des preuves, c'est juste ils étaient convaincus. Mais peut-être il aurait fallu ressonder les Écritures et reconnaître que oui, un jour, la Vierge sera enceinte, ce fils va naître, vous l'appellerez Dieu Tout-Puissant. Ces choses-là, ils ont un peu oublié. Mais donc voilà, il y a une espèce d'honnêteté de dire on a tous des croyances, on a tous des doutes, et les chrétiens et non-chrétiens, et donc comment on va avancer? Des fois, il faut réfléchir, avoir des bonnes raisons. Et donc justement, dans la pensée juive, il fallait deux ou trois témoins pour établir les faits. C'est intéressant. Déjà, un principe de justice, un principe sage pour toute la vie, ne pas se contenter d'une seule version des faits. Donc même si on grandit dans la foi chrétienne, ça n'empêche pas un jour d'être confronté, de poser des questions et de voir, est-ce bon, il y a d'autres visions du monde, laquelle est la plus cohérente? Ou juste entre nous, mon principe, si quelqu'un dit une chose, je vérifie avec d'autres témoins. Est-ce que Jésus invite les gens à faire? Donc Jean, l'évangile de Jean, il veut tout cet évangile est bâti sur le témoignage, c'est un mot-clé pour Jean, et il veut aligner les témoins et convaincre les Juifs que moi, je n'ai pas que deux ou trois témoins pour attester qui est Jésus, moi, je vous donne encore plus. Et dans ce texte, il y a cinq auxquels on peut, dans l'évangile, ajouter deux autres pour faire sept témoins. Sept pour un juif, c'est vraiment la totale. Donc voici les sept témoins, si vous avez parcouru notre lecture, les sept témoins qui sont des raisons de croire en Jésus en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu. Déjà, Jésus lui-même le dit, mais il dit, je le dis, mais un autoproclamé, c'est pas assez. Ensuite, il fait référence à Jean-Baptiste, son témoignage. Jean-Baptiste, celui qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste, qui était reconnu comme un prophète, disait aux Juifs de croire en lui. Ensuite, il parle de ses œuvres. Il vient de faire un miracle de guérison, mais il dit « Les œuvres que mon Père, il a fait d'autres miracles, des signes dans Jean. » Donc, ses œuvres attestent de mon identité. Ensuite, il parle de son Père. Le Père aussi rend témoignage de moi. On pense éventuellement à ce moment de son baptême, où il y avait la voix céleste, où... En tout cas, cette mission que lui donne son Père d'accomplir. Ensuite, il parle des Écritures. Hein. Vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc vous, les spécialistes des lois de la loi de Moïse et des Écritures, vous devriez savoir les choses qui annonçaient ma venue. Plus tard, donc Jean va ajouter le Saint-Esprit. C'est un peu le témoin par excellence, parce qu'il vient en nous et témoigne de qui est Jésus. Jean 15, 26, le Saint-Esprit rend témoignage de moi. Et puis le septième, il est là partout. Et peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est Jean lui-même, Jean l'apôtre. Jean qui a écrit ces choses, lui aussi, à la toute fin de l'épître, il va dévoiler un peu son identité et dire « Moi, c'est le disciple qui a écrit ces choses, je rends témoignage, je sais que ce témoignage est vrai ». Alors, ces sept témoins sont, pour les Juifs de l'époque, c'est quand même des raisons raisonnables de au moins se poser la question, comment expliquer l'énigme qui est Jésus, cet homme, un homme comme nous, un homme qui semble naître à Bethléem, qui a grandi fils de charpentier. Bon, c'est un bon enseignant, mais à la fois, il dit des choses incroyables, il dit qu'il est Dieu, il fait des guérisons, comment expliquer cette énigme? Et Jésus dit, bon, non seulement je le dis, mais j'ai... Je vous donne sept témoins, sept preuves, sept raisons pour réfléchir. Et chacune de ces raisons, pour un juif, sont assez parlants. Ils reconnaissaient le ministère prophétique de Jean-Baptiste. Ils se disent qu'ils aiment Dieu le Père et qu'ils veulent le suivre. Ils se disent spécialistes des Écritures. Ils sont sensibles aux signes, aux miracles qu'avaient fait les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, tout ça, ils pourraient avoir suffisamment de raisons de croire. Et il faut le dire, que eux qui demandaient deux ou trois, et Jean leur donne sept, si sept n'est pas assez, à un moment, c'est la mauvaise foi. Ce n'est pas huit ou neuf ou cent ou deux cents qui vont changer la donne. Donc oui, je reconnais que ces sept témoins étaient particulièrement parlants pour les interlocuteurs juifs qui vivaient là autour de Jésus à cette époque. C'est un peu parlant pour nous. Je propose un peu des équivalences pour nous. C'est à force de lire, d'entendre des débats entre chrétiens et non-chrétiens. Voici ce que moi je trouve des raisons, des réflexions, des considérations, si vous voulez, qui donnent raison à la foi. Donc, je peux les aligner un peu sur les sept témoins de Jésus. Ce serait un peu forcé, mais comme par exemple, voici ma liste. Et pour s'en rappeler, j'ai commencer avec les sept considérations. Tout d'abord, la conscience. Comme Jean-Baptiste était un peu la conscience du peuple qui dénonçait le péché, nous avons tous cette voix qui dénonce le mal, qui sait distinguer entre le bien et le mal. Ça, c'est déjà c'est fort. D'où vient cette conscience? D'où vient la définition du bien et du mal? D'où vient la différence? Si tout ce que nous sommes sont des accidents dû au hasard, c'est difficile de parler moralité, éthique, bien et mal. Parce que si, pourquoi dénoncer, si on n'est que des accidents dus au hasard, pourquoi serait mal qu'un accident dû au hasard fait du mal à un autre accident dû au hasard, et même cette action n'est qu'un accident dû au hasard, donc où est le bien ou le mal dans tout ça? Mais la conscience, et même les non-chrétiens, peuvent dénoncer des injustices, dénoncer le mal. Mais pourquoi? Donc, je trouve ça, c'est une réflexion qui nous pousse vers un juge, un arbitre, une vérité absolue. Il y a la création, nous avons étudié ça, un message récemment, la science, la création, mais encore, c'est un peu le Père qui nous rappelle. Pour nous, c'est la voix du Père. Il rappelle qu'il a créé ce monde, il nous a créé. Et on peut penser pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons? Eh bien, la création nous rappelle l'existence de Dieu. Le cimetière, c'est pour parler un peu du mal et de la mort, là, tout ça, là, ça nous interpelle. Vous avez vu dans le témoignage d'Adam qu'il y a quelque chose qui nous touche, qui nous attriste, qui nous trouble face à la mort. Si on n'est que juste des bacs de recyclage en train d'être recyclés, difficile à expliquer cette peine, cette douleur, ce rejet de la mort. Et puis à côté de ça, il y a le miracle de la résurrection. Jésus dit les œuvres que je fais, l'œuvre par excellence, c'était le signe par excellence, c'était sa propre résurrection. Et déjà, ça devrait nous interpeller, cette résurrection qui offre enfin une solution à la mort, cette mort qui trouble l'humanité entière depuis toujours. Et il y a quelque chose en nous qui espère une solution à la mort, qui tente de régler ça et qui n'arrive pas. Donc je pense que, je dis le cimetière, mais le cimetière nous rappelle notre fragilité, notre mortalité, mais le fait que nous sommes au courant et que ça nous touche, et qu'il y a un désir d'éternité, de paradis, ça a encore une raison de chercher des fois au-delà de ce que les yeux peut voir. Les Écritures, nous en parlons dans toute cette série, mais la Bible reste aussi une raison de creuser, de sonder la foi, son unité, écrite sur un peu des siècles, ses prophéties accomplies, sa pertinence pour nos vies. Lorsque nous vivons un moment de solitude, nous allons lire les psaumes et il y a une beauté, il y a une vérité, comme Manuki en a témoigné. On vit ces moments comme Adam aussi, on peut réussir la vie, mais trouver qu'à l'intérieur, et la Bible apporte un message. La communauté chrétienne, c'est une autre raison. Bon, c'est à double tranchant, ceci, parce que la communauté chrétienne n'a pas toujours été fidèle à ses propres principes. L'Église, au fil des siècles, les chrétiens n'ont pas toujours eu un témoignage selon Christ. Mais même là, quand on dénonce l'hypocrisie, on s'appuie sur ce que la Bible elle-même nous enseigne, la manière qu'elle nous enseigne de vivre dans l'amour, dans le pardon, dans la douceur. Et quand les chrétiens s'éloignent de ça, le monde entier peut dénoncer l'hypocrisie. Mais ça rappelle que les paroles de Jésus ont été pertinentes. Mais à côté de ça, l'Église, je pense que beaucoup ont pu être touchés par une communauté qui vit dans l'unité, qui vit d'amour. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il fait de nous des enfants de Dieu ensemble, une famille. C'est ce que nous célébrons aussi un jour de baptême. C'est voilà, cette famille que nous pouvons former et des personnes de toute ethnie, tout arrière-plan culturel viennent ensemble et vivent vraiment l'amour et la paix et l'unité. Et ça, c'est très parlant. C'est une raison qui fait réfléchir. Et peut-être vous avez été touché non par tant une raison cartésienne, mais par l'accueil et l'amour que vous avez trouvé dans une communauté chrétienne. Et je trouve que ça reste une raison pertinente. Je dis la culture ensuite. L'effet de l'héritage chrétien dans notre culture, les valeurs culturelles, comme quelqu'un disait, c'est intéressant, mais les valeurs telles l'égalité, la compassion, le consentement, la laïcité, la science, la liberté et le progrès sont quand même au fond des idées chrétiennes que ni le monde gréco-romain, ni le monde athée militant auraient produites. Donc même ceux qui dénoncent la foi chrétienne, parce qu'ils cherchent plus d'égalité, plus de liberté, plus de progrès, ils doivent le faire en s'appuyant sur des idées chrétiennes. Et plusieurs historiens et sociologues ont montré que oui, c'est grâce à le terreau chrétien que sont développées des idées que l'égalité ou la compassion ou même la séparation de l'État et l'Église, tout ça c'est quand même à la base des idées chrétiennes. Et enfin, la preuve par excellence, la raison par excellence, c'est Christ lui-même. Il rend témoignage de lui, mais une rencontre avec Jésus, ce personnage, cette énigme qui reste là, comment expliquer Jésus? Mais il est la meilleure explication de sa vérité. Comme disait quelqu'un, faites une liste de 10 personnes qui ont bouleversé le monde, qui ont transformé le monde, les grands leaders. Faites une liste avec les 10 personnes qui ont plus impacté notre monde. Faites une autre liste avec des personnes qui ont prétendu être Dieu, qui ont dit « je suis Dieu », donc ce voisin dans le bus que vous avez rencontré, lui aussi, plein de gens comme ça, « je suis Dieu, j'affirme être Dieu ». En fait, il y a une seule personne sur les deux listes. Il y a des gens qui peuvent bouleverser notre monde en apportant des valeurs de paix, de vérité, d'enseignement, de transformation. Mais ce n'est pas les mêmes qui disent « je suis Dieu, j'affirme être Dieu ». Ces gens-là, souvent, ils sont un peu déréglés dans la tête. Mais Jésus avait les deux. À la fois, il disait « je suis Dieu », à la fois, il avait un message qui a transformé notre monde par l'amour qu'il apportait, par l'exemple, par la justice, par la pertinence, la sagesse de ses propos. Donc voilà, cette considération, je trouve raisonnable. Bien sûr, c'est l'effet cumulatif. Vous réfléchissez et à un moment, je pense que vous êtes convaincu que la foi chrétienne présente un pouvoir explicatif supérieur à toute autre religion, toute autre philosophie. Donc la foi a ses raisons. Mais j'aimerais aussi rappeler ce matin que le cœur a ses raisons. Des fois que la raison ne maîtrise pas complètement, qu'il dépasse la raison cartésienne. Donc oui, il nous faut des raisons pour croire et Jésus nous les offre dans ce passage et tout au long de la Bible. Il donnait 7 témoins pour inviter les gens à croire. Mais il reconnaît que d'autres facteurs entrent en jeu. Et des fois, ce n'est pas le manque de raison. si quelqu'un me demande, par exemple, pourquoi tu crois en Jésus-Christ, peut-être la raison la plus juste serait de dire parce que mes parents m'ont éduqué ainsi avec amour et cohérence. Ou si je vous... Et pourquoi vous ne croyez pas en Jésus-Christ, je pourrais demander, et la réponse la plus juste peut-être serait parce que mes amis se moqueraient de moi. Ni l'une ni l'autre sont des raisons quotidiennes, prouvées, rationnellement, scientifiquement. Mais on n'est pas que des cerveaux, on a des vies, on a des cœurs, on a des émotions. Et Jésus reconnaît ça, même face à ses interlocuteurs, il dit en verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres ?» Vous êtes un bande de copains un peu. Okay. « Comment pouvez-vous croire, qui tirez votre gloire les uns des autres, qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu ?» Seul. Si dans ces groupes, les autorités juives qui ne voulaient pas en croire en lui, si l'un d'eux mettait sa foi en Jésus, ça aurait menacé leur place, leur pouvoir, leur importance, leur prestige, leur confort, leur parcours culturel, tout ça. Donc finalement, ils ne veulent pas croire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des raisons, c'est qu'ils ne veulent pas. Ce philosophe athée, il est clairvoyant, Thomas Nigel, il dit, je reconnais que je veux que l'athéisme soit vrai. Ce n'est pas uniquement parce que ne croyant pas en Dieu, j'espère naturellement avoir raison. C'est parce que j'espère qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je suis curieux de savoir s'il se trouve quelque part une personne que l'éventualité de l'existence de Dieu indiffère réellement. Quelqu'un qui, indépendamment de ses convictions réelles sur le sujet, ne tient pas particulièrement à ce que l'une ou l'autre réponse soit correcte. On est tous désintéressés, là. Nul n'est neutre face à la foi, face à la personne de Jésus. Et en plus, la Bible va dire que notre raisonnement est taché par le péché, par l'égoïsme, par un intérêt pour soi, par cet amour pour la gloire des hommes, et ça bousille notre raisonnement. Donc, on a beau être le plus expert en philosophie, on peut être aussi se tromper soi-même. Et avoir besoin que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il éclaire notre raison. Et c'est ça notre espérance ce matin. Vous savez que ces paroles en Jean chapitre 5, que nous avons étudiées ce matin, je termine avec cela, viennent après la guérison du paralytique que nous avons étudiée la semaine dernière. Et les commentaires de Jean sont d'accord pour dire que cette guérison, en chapitre 5, sert d'arrière-plan à une guérison suivante, à une guérison en chapitre 9. Et c'est vraiment deux guérisons parallèles, même circonstances, même jour de sabbat, mêmes interlocuteurs sceptiques face à Jésus, mêmes adversaires incrédules. Et ce jour-là, en Jean chapitre 9, il y a un homme qui est né aveugle et que Jésus guérit. Et là, ça perturbe les autorités parce qu'ils n'ont pas une raison cartésienne pour expliquer cet homme qui avant était aveugle et maintenant il voit. Donc ils vont voir ses parents et ils disent, bon, votre fils que vous dites né aveugle, comment donc voit-il maintenant? Les parents ne savent pas, nous le savons, interrogez-le. Donc ils vont voir l'aveugle qui était guéri, ils posent la même chose. Ils disent, nous savons qu'un homme comme ça, comme Jésus, cet homme, il est certainement pécheur, nous savons qu'il n'a pas pu faire ça. Et le gars dit, ok, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Même ça, ça ne leur convient pas. Non. Mais comment t'a-t-il ouvert les yeux? Nous, on veut des raisons rationnelles, scientifiques, cartésiennes. Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il dit, moi, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Il commence à se moquer d'eux. Vous voyez dans cette histoire que des fois, oui, on ne sait pas tout expliquer, mais cet homme, je trouve beau, il dit, je sais une chose, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Et après, il trouve Jésus et il voit Jésus et il termine en l'adorant. Peut-être vous ne savez pas tout expliquer philosophiquement, rationnellement, mais vous savez que votre vie a été transformée et que c'est vrai. Et c'est là où l'image du Rubik's Cube est intéressante. Et vous savez, à un moment, le dernier tour met tout en place et vous voyez, la solution est là. Chaque couleur sur chaque face. Et vous dites, ah ben, c'est ça la solution. J'ai trouvé, personne ne peut. Je ne sais pas même comment vraiment j'ai. Des fois, on ne vous savait pas trop, mais je sais que j'ai la solution. Et des fois, avec Jésus, c'est pareil. Bon, il y a toutes ces raisons rationnelles qui nous donnent des pistes. Mais à un moment, il y a l'expérience de ces personnes qui ont été guéries dans les évangiles, qui ont pu savoir que ça. Peut-être je n'ai pas la raison exacte pour expliquer. Je sais une chose, qu'avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Avant j'étais coupable, maintenant je suis justifié. Avant j'étais seul, maintenant je suis aimé. Et là c'est le cœur qui se remplit de raisons aussi pour croire en Jésus. J'espère que vous-même, si vous cherchez des raisons pour venir à Christ, si vous trouvez, vous pouvez en trouver dans la lecture de la Bible, dans une rencontre avec Jésus-Christ, par le témoignage des baptisés ce matin, par une vie d'église. Vous êtes bienvenus à cheminer avec nous, à vous poser vos questions, surmonter vos doutes. En tout cas, on est ensemble dans cette aventure de la foi où nous voulons écouter les raisons que Dieu nous donne pour le suivre, mais finalement, ce n'est pas juste le cerveau, mais c'est d'avoir découvert qu'il nous aime, qu'il a donné sa vie pour nous à la croix, que Jésus est ressuscité, il nous offre la vie éternelle. Et pour cela, nous le suivons. Je vous invite à terminer dans la prière. Seigneur, nous te remercions ce matin. La personne de Jésus offre de quoi remplir notre raison, notre intelligence, notre logique, mais la personne de Jésus nous offre encore bien plus, quelque chose pour notre cœur, quelque chose qui est merveilleux dans notre soif d'amour, dans notre soif de justice, de paix. Jésus est là. Nous trouvons en lui une beauté qui va au-delà du tombeau. Nous trouvons en lui un amour qui pardonne et qui nous aide à pardonner les autres. Nous trouvons en lui une vérité certaine, mais une vérité qui ne nous rend pas égoïstes, meilleurs que les autres. Nous trouvons en lui une famille, une appartenance, mais qui ne nous rend pas exclusivistes. Nous trouvons en lui tout et nous te remercions. Merci pour ce culte que nous avons pu t'offrir ce matin. Nous te prions de nous aider à marcher dans tes voies. Bénis encore notre Église. Aide-nous à nous fonder sur ta vérité. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.